Les banlieues, un enjeu majeur pour l'Europe depuis donc le Parlement européen avec Catherine Trottmann, Alain Hutchinson, Vincent Peillon et Jean Hurtzel. Bonjour madame, bonjour messieurs. Quelques mots, Catherine Trottmann, le Parlement nous accueille ici sur une question qui est visiblement fondamentale ici, notamment en France, mais on va le voir avec d'autres invités ici en Europe. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui est intéressant que la banlieue finalement investisse ce lieu? Parce que d'abord, on parle de cette question ici, mais en même temps que des gens issus de ces quartiers viennent chercher un peu les poux dans la tête des eurodéputés sur cette question.
Je pense que là, deux raisons me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on est dans une civilisation urbaine. Plus de 80% de la population vit dans les villes et en même temps, les villes sont malades de cette civilisation qui n'a pas la capacité de donner sa place à chacun ou à chacune, qui continue d'exercer une forme de violence au travers du chômage, au travers des problèmes de santé, d'accès au logement. Et je pense que c'est donc un enjeu majeur, il ne peut pas être question en Europe d'une véritable citoyenneté si elle n'est pas mise en œuvre, que ce soit pour les ressortissants des différents pays membres, les 27 maintenant, mais aussi pour ceux qui y vivent, et j'ai toujours défendu pour ce qui me concerne, une citoyenneté de fait européenne qui s'ajoute à la citoyenneté nationale, mais aussi une citoyenneté de résidence, c'est-à-dire qui se conçoivent comme donnant des droits, permettant la participation, y compris politique, de ceux qui n'ont pas la nationalité du pays dans lequel ils résident.
Alors, on va revenir plus en détail tout à l'heure sur toutes ces questions, notamment de citoyenneté. On se tourne tout de suite vers Alain Hutchinson. Vous représentez un peu la Belgique ici. On a la chance de faire en une pierre plusieurs coups. Est-ce que cette question de la banlieue, par exemple, en Belgique, est une question qui est prégnante comme elle peut l'être ici en France ?
Mais je dirais, bon, la question de la banlieue n'est pas une question prégnante en Belgique parce que les banlieues ne sont pas les mêmes. Quand on voit les villes françaises, la manière dont elles sont organisées, les villes françaises ont tendance à exporter leur pauvreté, nous avons tendance à la gérer au centre de nos villes. Donc parler de banlieue n'est pas exactement le bon concept qu'il faut utiliser pour les villes belges et pour la Belgique. Ceci étant, je voudrais quand même insister par rapport à ce que vient de dire Catherine Trottmann sur ce phénomène qui s'est développé au cours de ces dernières décennies. C'est le phénomène urbain, c'est le phénomène de l'urbanisation en fait, de la vie dans le monde entier, mais en Europe, l'Europe n'échappe pas à cela. C'est ainsi qu'on voit effectivement un pourcentage de plus en plus élevé de gens vivre dans les villes, de gens d'origine différente, de gens qui ont des habitudes de vie différentes, des gens qui viennent des campagnes, de gens qui vivent richement, aisément, et de gens qui vivent pauvrement, tout ça sur des territoires très resserrés. C'est donc ce phénomène urbain qui est un peu au centre de tous les débats, et à cet égard, nous avons pour la première fois dans ce Parlement européen obtenu la création en début de législature d'un intergroupe qui s'appelle Urban Logement, précisément parce que jusqu'ici, on a un peu tendance au niveau européen à examiner les problèmes d'une manière très, très rurale. N'oublions pas que la PAC, c'est le plus grand budget de l'Union européenne, c'est plus de 50% du budget. Et on a longtemps ignoré les problématiques urbaines. Or, elles deviennent véritablement centrales dans la plupart des débats que nous menons dans cette enceinte. Donc, on est très content d'avoir cet intergroupe qui ramène un peu d'urbanité, si je puis dire, dans tous les débats. Et donc, cette ville est un endroit d'affrontement, trop souvent d'affrontement. C'est un endroit où il est difficile parfois de vivre ensemble et c'est un endroit qui nécessite et qui mérite l'attention de tous les politiques, à commencer par les gens qui font de la politique sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national et sur le plan européen, bien entendu. C'est donc, je crois, un des grands débats d'aujourd'hui et de demain, parce que si nous n'arrivons pas à vivre de manière pacifiée dans ces grandes entités que sont les villes européennes, on va avoir des grosses difficultés à l'avenir.
Vincent Peillon, vous êtes eurodéputé français, vous avez été longtemps porte-parole du PS, le PS a été longtemps, en tous les cas en France, un peu porteur d'une idée nouvelle, notamment la politique de la ville, hein, qui a été donc instaurée il y a plus de 25 ans maintenant. Quelle est aujourd'hui la réflexion de la classe politique française, et notamment particulièrement au Parti Socialiste, donc à gauche, sur cette question de la banlieue? Est-ce qu'il y a des idées nouvelles, ou est-ce qu'on dit on s'est trompé pendant 25 ans, il y a des choses à refaire? Comment aujourd'hui on peut analyser cette question, et quelle est finalement l'offre aujourd'hui d'un parti comme le vôtre sur cette question de la banlieue?
D'abord, mon propos va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit à l'instant et par Catherine Trottmann et par Alain, parce que je crois que c'est tout à fait juste. Et ça débouche sur la conséquence suivante. D'abord, il y a un grand danger en France, c'est de remettre en question systématiquement tout ce qu'on a fait. Il faut perfectionner, mais jeter le bébé avec l'eau du bain serait idiot, et les politiques de la ville ont heureusement existé. Et on voit bien d'ailleurs que quand elles sont démantelées, comme ce qu'on avait fait aussi dans la dernière législature pour les associations, pour les emplois jeunes, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Est-ce que c'était suffisant ? Non, mais c'était mieux que rien. Et un grand danger, c'est souvent parce que justement, on veut faire du neuf à tout prix. La politique de la ville était un échec complet. Ça, c'est une erreur. Bon. Par contre, la réflexion nous conduit à ça, et c'est pour ça que c'est dans le droit fil. C'est, moi, je pense, si je ne m'exprime pas là au nom de la classe politique française, je pense qu'un des grands dangers devant lequel on est, c'est de considérer que le problème des banlieues est le problème des banlieues. On dit problème des banlieues. Non, pour moi, c'est le problème de la France. Les chiffres ont été indiqués. Si on dit 80% des gens vivent maintenant en milieu urbain, prenez une mégapole comme Paris maintenant, 80% de la population de Paris, en fait, est en banlieue. Et puis, les banlieues, il n'y a pas qu'une banlieue. Bon. Donc, je crois qu'à partir de là, on doit se poser la question suivante, c'est celle des politiques publiques. La sécurité, l'éducation, les questions culturelles, les questions de confession, les questions, tout ça, ce sont des politiques publiques avec l'intervention de l'État. Et je crois qu'on aurait tort de penser problème des banlieues et le problème des banlieues, où il faut un traitement particulier, une politique pour les banlieues, puis une politique pour la France. C'est ça que je ne crois pas. Donc la réflexion vers laquelle on est, c'est pas démanteler des dispositifs spécifiques, on pourrait en parler plus précisément, mais en même temps comprendre que c'est les politiques publiques en général qui sont concernées par cette affaire. Et que là où nous avons le plus manqué, dans le fond, c'est dans les politiques non pas sectorielles, mais générales. Donc, politique éducative, politique de santé, ce sont bien ces politiques qu'il faut, disons, remuscler.
Jean Hurtzel, vous êtes président de Banlieue d'Europe, donc vous avez une vision plus large. En plus, vous n'êtes pas politique, donc vous pouvez être beaucoup plus libre. Vous avez une langue peut-être beaucoup plus déliée, finalement. Est-ce que, au fond, cette question, est-ce que vous y croyez, vous, à la question, au fond, que cette question de la politique de la ville, de la banlieue, c'est quelque chose qui est transversal, faut les faire rentrer dans le droit commun, et qu'il faudrait peut-être arrêter avec le replâtrage que l'on lit à droite à gauche, notamment dans les rapports différents remis aux gouvernements successifs qui ont très tôt pris une place dans un tiroir poussiéreux. Quel est-vous, votre point de vue sur cette question ? Est-ce que, fondamentalement, on est devant un mur et il faut vraiment faire quelque chose pour les années qui viennent ? Ou est-ce que, au fond, les classes politiques successives, en tout cas les gouvernements successifs, gèrent, au fond, entre guillemets, cette question jusqu'à ce que ça explose de temps en temps ?
Non, je crois que, réellement, la banlieue est le symptôme du mal-être français, européen en général. C'est pas la même situation. La situation de la France est un peu exceptionnelle dans le sens où vous avez, sur un périmètre assez réduit quand même, l'ensemble des problèmes sociaux qui se posent dans un pays. C'est-à-dire, vous avez des familles immigrées, vous avez un taux de chômage qui est le double, et le chômage des jeunes quelquefois qui est le triple de la moyenne nationale. Les ménages pauvres sont le double de la moyenne nationale. Les familles monoparentales pauvres se retrouvent là. Vous avez donc rassemblé dans un espace réduit un ensemble, tous les problèmes sociaux, toutes les contradictions sociales du pays. Ça, c'est une spécificité française dans le sens où les grands ensembles périphériques à la française n'existent pas souvent ailleurs. À Bruxelles, les quartiers périphériques sont plutôt les quartiers chics. Les Anglais traduisent banlieue par inner cities parce que les problèmes se posent au centre de la ville. Donc c'est une spécificité française, le rassemblement de toutes les contradictions sociales, le confinement de en quelque sorte tous les problèmes sociaux, et il suffit d'une parole ministérielle malheureuse, que je juge malheureuse, ou d'une bavure policière pour que ça éclate. C'est une bombe atomique en puissance. Et alors, il ne faut pas exagérer, effectivement, la politique de la ville a permis quand même, pendant des périodes assez longues, ça date de 79, la première explosion de la banlieue en Vaux-en-Velin en 79, vous voyez que ça rebondit de temps en temps, mais quand il y a eu la politique de la ville, la police de proximité, un certain nombre de financements aux associations locales, il y a un travail formidable qui a été fait dans ces quartiers-là, ça n'explose pas. Donc il faut dire quand même qu'il y a une politique qui fait que ça explose, d'autres où ça n'explose pas. Il y a quand même une différence de politique, ça il faut le dire.
On va justement se tourner vers Catherine Trottmann. Vous avez été longtemps maire ici à Strasbourg. Il y a des quartiers périphériques. On parle beaucoup de la participation des habitants. Comment on fait quand on est maire aujourd'hui d'une grande ville comme Strasbourg, même si vous ne l'êtes plus? Et on m'a dit avant l'antenne que vous aspirez peut-être à l'être à nouveau. Comment on fait pour justement capter cette parole et la mettre sur la place publique, la transformer finalement en projet politique et en réponse par rapport à une demande qui est de plus en plus accrue?
Non, je pense que vous le dites vous-même, un des grands problèmes que l'on a dans les politiques qui sont menées dans les quartiers de banlieue, c'est la possibilité, y compris de résoudre les contradictions culturelles. Contradictions entre les parents, qui n'ont pas forcément la même capacité à s'exprimer dans notre langue par rapport à leurs propres enfants. Lieu d'expression, on a en fait... occupés, j'ai appelé ça moi les pratiques occupationnelles, plutôt qu'ouvert des espaces de participation. En ce qui me concerne, j'ai constaté que par exemple en ouvrant des cybercentres, qui sont aujourd'hui d'ailleurs fermés dans ces quartiers, on a pu aussi, et ça je le regrette dans notre pays, innover complètement et trouver en fait au travers de la pratique des acteurs sociaux, des acteurs associatifs et des populations qui cherchent de nouveaux terrains de solidarité ou d'expression, qu'on a véritablement un gisement de nouvelles pratiques sociales. Le problème, c'est qu'elles apparaissent elles-mêmes comme secondaires, périphériques ou aléatoires. La difficulté de ces quartiers de banlieue, c'est d'être toujours en attente d'un nouveau projet. Et le problème, c'est le temps. Le temps qui est infini pour un chômeur, parce qu'il n'arrive pas à avoir un avenir, et le temps qui est constamment marqué de précarité par rapport aux conditions sociales dans lesquelles vivent les gens. Alors ouvrir des espaces de participation, c'est leur permettre de s'exprimer quand ils le peuvent, quand ils le veulent, sur tous les sujets qui les concernent. Moi je suis allée aussi chez l'habitant, et en particulier chez les femmes, parce que c'était extrêmement important de les voir dans un petit endroit où elles avaient la liberté de s'exprimer, parfois aussi en dehors des maris, il faut le dire. Donc c'est chercher cette parole. Et quand on voit que dans les projets qui sont les grands projets de ville, etc., tout ce qui est de l'ordre de l'expression est secondaire et maltraité. La démocratie locale dans les quartiers de banlieue n'est pas une priorité. Et c'est là pourtant que les gens devraient construire leur dignité. C'est là qu'ils sont en quelque sorte face à une image qui les dégrade ou au contraire devant la possibilité d'être reconnus et participants de la cité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours hésité entre la pratique de ces politiques exceptionnelles ou particulières pour ces quartiers et en même temps une forme de banalisation, comme disait Vincent Payon à l'instant, c'est-à-dire la possibilité de mobiliser ou de remobiliser les politiques publiques générales vers ces quartiers. Je crois qu'il faut faire les deux. En tout cas, il faut les faire converger. On ne s'en sortira pas sans continuer d'avoir une priorité pour l'éducation, en particulier dans les écoles de ces quartiers, pour la vie associative, pour le logement aussi, bien sûr, pour le transport public, qui est plus long à construire parce que ces quartiers sont plus éloignés. Mais il faut à tout prix que l'on puisse, et je le dis à votre micro, parce que je crois que vous avez, en tant que journaliste, en tant qu'agence de presse, un rôle essentiel par rapport à la circulation de la parole. Tant que la parole ne circule pas, on est enfermé dans ces quartiers comme dans une prison.
Jean-Hurtel, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je trouve que c'est exactement ce que j'attendais d'un homme politique qui me le dise, ça. Parce que je pense effectivement que les villes dont on parlait tout à l'heure, 60% de la population, ne sont pas uniquement des lieux bâtis. C'est des lieux culturels pour moi, c'est-à-dire des représentations, des valeurs, quelquefois antagonistes, quelquefois extrêmement différentes. Et je crois que réellement, dans un quartier comme les banlieues, dans les banlieues en général, il est essentiel que les gens puissent s'exprimer. Ça s'appelle la démocratie, tout simplement. Ça, c'est tout à fait essentiel qu'ils puissent participer à des projets. C'est essentiel qu'ils puissent avoir une formation de base à travers ces projets culturels. Et je trouve, si vous voulez, que là, on tient quelque chose d'essentiel. Et je peux vous dire qu'en Europe, puisque je représente la banlieue d'Europe, en Europe, il y a un mouvement formidable de la société civile qui s'accapare tous ces projets-là pour effectivement avoir le sentiment qu'ils appartiennent à la ville. Au-delà de leurs différences religieuses, ethniques, etc., ils appartiennent à une ville. Et ils sont habitants de la ville et ils sont habités par la ville. Et ça, c'est essentiel. Et la culture, c'est ça. C'est ça. C'est ça le sens de la culture, c'est que les gens puissent dire « j'habite cette ville ». Je suis partie prenante.
Alain Hutchinson parlait tout à l'heure de confrontation. Est-ce que finalement une classe politique quelle qu'elle soit doit savoir aussi accepter de rentrer en conflit pour justement faire émerger des paroles qui ne sont pas forcément faciles à entendre?
Écoutez, accepter de rentrer en conflit, de toute façon, à partir du moment où vous participez à une décision, vous participez à un conflit, parce que tout le monde n'est pas d'accord, l'unanimité est rare, donc le problème n'est pas vraiment là. Moi je crois que ce dont
vous
on parle ici...
Vous devriez venir faire de la politique en France.
Ce dont on parle ici, c'est sans doute un problème, enfin pas sans doute, je crois très sincèrement que c'est un problème de cohésion sociale dont il est question, beaucoup plus que d'un problème d'immigrés, d'Européens, de non-Européens, de musulmans, de chrétiens. C'est un problème de cohésion sociale. Et la cohésion sociale est un projet difficile à réaliser dans les villes, parce que tout est organisé actuellement pour qu'elle n'existe pas. Et donc, et je rejoins ce que disait Catherine Trottmann il y a un instant, donc c'est vrai que ce que vous appelez les banlieues, ce que nous pourrions appeler nos ghettos urbains, parce qu'on en a aussi, hein. Il faut savoir que les Turcs vivent avec les Turcs à Bruxelles. Il y a des quartiers plus spécifiquement marocains, enfin à Bruxelles, des communes. Toute la première couronne bruxelloise est composée de quartiers très ghetto, si je puis dire. Je vous signale, c'est une parenthèse un peu anecdotique, mais mon père est anglais. Il a vécu pendant 45 ans en Belgique, vit en France maintenant. Il a toujours vécu dans la communauté britannique. Hein. Il n'a jamais vécu vraiment en Belgique, mon père. Il a un accent anglais à décrocher. Donc, je veux dire, c'est pas un problème des Marocains ou des Turcs. C'est un problème, je crois, d'identité culturelle des gens. Et c'est ça qu'il est difficile de faire fonctionner ensemble. Et donc, je crois qu'il faut des politiques volontaristes. Et qui dit politique volontariste implique, bien entendu, des difficultés de persuasion vis-à-vis de la majorité. Et je pense par exemple à l'enseignement. Moi je me souviens très bien quand j'étais adjoint au maire à Saint-Gilles, qui est une des communes du centre de Bruxelles, j'ai eu la chance de pouvoir gérer la culture et l'éducation. Les écoles de Saint-Gilles étaient des écoles pour immigrés, point. Donc il n'y avait plus de Belges, d'Européens, disons, en gros, dans ces écoles-là. Il n'y avait plus que des gosses issus de l'immigration, ou alors les quelques Européens qui traînaient là étaient issus du quart-monde. Et donc voilà, on était dans des écoles, dans un enseignement véritablement à deux vitesses. Eh bien, je crois que par rapport à ça, il y a beaucoup de choses à faire, mais il y a d'abord des choses à imposer. C'est un peu comme la féminisation de notre société aujourd'hui. On impose des quotas. Sur nos listes, on doit avoir 50% de femmes, 50% d'hommes. Ça ne s'est pas fait naturellement, donc on l'a imposé. Mais je crois que pour l'enseignement, pour les quartiers, pour la vie en commun et pour la cohésion sociale, il y a un certain nombre de règles qu'il faut imposer et qui sont parfois impopulaires. Mais ça, il faut l'assumer quand on fait de la politique à ce niveau-là.
Vincent Peillon, qu'est-ce qu'on répond à Alain Hutchinson quand il dit que des fois, il faut imposer un certain nombre de choses? Est-ce que finalement, on peut dire que sur certaines questions ici en France, il serait peut-être utile de tester notamment ce qu'on appelle la discrimination positive, notamment un peu plus d'argent pour les ZEP, en tous les cas, qu'on aille peut-être, qu'on arrête un peu cette barrière de la sémantique en France.
D'abord, moi, par rapport à ce qui a été dit là, je crois, ce n'est pas un désaccord, mais c'est une nuance. Moi, je ne suis pas du tout sur une idéalisation des banlieues, et je ne suis pas sur l'idée, disons culturaliste, qu'on donnerait la parole et que là, il y a toute une culture qui demande à s'exprimer, à bien vivre, etc. Je ne dis pas qu'il y a la demande de dignité, de respect, mais je pense qu'on a un vrai problème social. Donc la parole politique, pensez à ce qui s'est passé dans les banlieues en France. Le président de la République, ça avait surpris tout le monde, n'est pas intervenu. C'était une autre France, c'était pas sa France. Bon, alors qu'on a dit tous, c'est la France. Bon, donc il y a un problème là qui est de reconnaissance politique, qui va au-delà d'une démocratie locale ou participative. Elle est au cœur de la République, donc de la démocratie aussi, de représentation. On évoquait la question de la parité, ça vaudrait aussi, bien entendu, pour les représentations, qui ne sont pas seulement d'ailleurs d'origine ethnique, mais qui sont sociales. Car au bout du bout, quand je parlais des politiques publiques tout à l'heure, je pense qu'on vit un problème terrible, qui est un problème, on peut dire, de cohésion sociale. Mais ça veut dire d'identité républicaine, puisqu'on a quand même construit notre République sur un projet social. Et les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues, mais c'est le problème de la France, c'est la loupe qui agrandit tous les problèmes. Et cette société totalement duale, avec maintenant des frontières territoriales, mais il y a des tas d'autres frontières qu'on laisse s'installer. Et c'est pour ça que, moi, mon sentiment, c'est que si on n'a pas une politique, et je reviens à des politiques publiques extrêmement volontaristes sur les questions sociales, mais là, entendu au sens large, hein, c'est-à-dire là, il y a l'éducation, qui n'est pas simplement le culturel, la parole, là, il y a l'éducation, avec la même pour tous sur tout le territoire, le socle des valeurs et les exigences qu'on porte aussi dans l'appartenance républicaine, le logement qu'évoquait Catherine Trottmann tout à l'heure, qui est quand même une question majeure, on le voit bien, parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent vivre dignement dans les banlieues, mais moi je rencontre beaucoup de gens qui sont dans les banlieues et qui disent, avec des taux de chômage que vous avez évoqués, qui sont de 3 fois supérieurs pour les jeunes, qui disent, on voudrait aussi pouvoir vivre ailleurs. Et le droit à la mobilité, c'est un droit fondamental. Et quand on regarde qui peut bouger, que ce soit pour aller en vacances, ou prendre un job ailleurs, ou venir comme député européen à 500 km, sont toujours les mêmes. Et dans les banlieues, on ne bouge pas. Et d'ailleurs, Sarkozy condamne ceux qui restent au bas des cages d'escalier. Mais ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Mais là, on va être enfermé parce qu'on est immobile. Il y a la société des mobiles, de la mobilité. C'est la société qui a de l'argent, qui parle les langues étrangères, qui peut... Et puis il y a la société immobile que l'on va ghettoiser dans les banlieues. Donc moi, mon idée, n'essayons pas quand même trop d'idéaliser comme on l'a fait un peu post-68, la diversité des cultures, mais battons-nous pour une République qui ressemble à ses valeurs.
Jean Hurtel me fait des gestes, alors je...
Il a raison. D'idéaliser les banlieues, je vous fais remarquer quand même que jusqu'à présent, dans tous les médias, ça a été l'enfer. On a décrit l'enfer l'année dernière, en novembre. L'enfer concentrationnaire, il n'y a que des dealers, il n'y a que des polygames, hein. Il n'y a que des familles polygames, mais c'est l'enfer. Je veux dire, on a fait une description de l'enfer.
Si c'est ça, on n'a pas de désaccord. Hein.
Voilà.
Vous en doutez.
Je veux dire, il faut arrêter aussi ça. Ce n'est pas ni l'enfer ni le paradis. C'est un lieu de vie, c'est pour moi une niche écologique où les gens essaient de survivre. Et s'ils essaient de survivre, contrairement à ce que vous pensez, je pense que la culture, c'est vraiment important parce que les représentations, les valeurs d'une population donnée ou d'un individu donné, sont, c'est ça qui fait. C'est ça qu'on appelle l'identité culturelle, terme que j'aime pas du tout, mais qui fait qu'il se sent bien dans un endroit, tout simplement, et qu'il a envie d'y vivre.
Catherine Trottmann.
Oui, moi, je voudrais simplement faire cette observation, c'est que depuis les quartiers HVS, et moi, j'étais animatrice à l'époque
de jeunes, Habitat
et Vie Sociale. Les premiers quartiers, ici, à Strasbourg, ça a été le quartier de Neuilly, hein, dans les 22 qui avaient été déterminés comme quartier difficile en France. Ce quartier de Neuilly, c'était celui dans lequel on avait mis les institutions pour handicapés et les pauvres gens qui arrivaient de pays de l'Est, ceux qui étaient venus comme travailleurs immigrés de Pologne, les Portugais aussi après, puis ensuite les Maghrébins. Dans notre pays, on a toujours réagi tard par rapport au flux d'immigration. Non pas par l'accueil, mais par le refus. Et par l'assimilation, la proposition d'assimilation, c'est vrai, par des moyens aussi de scolarisation. Mais en même temps, pourquoi j'insiste sur l'aspect culturel ? C'est que quand on n'a rien, au moins il reste ce qu'on pense et ce qu'on sait. Et moi, mon expérience des banlieues, c'est que les personnes veulent être considérés, non pas seulement être des cas sociaux. Et ne plus être seulement des cas sociaux, c'est-à-dire quelqu'un qui a un besoin, qui a une demande, qui est constamment à chercher aussi un soutien de la société, c'est quelqu'un qui change de statut. Un jour, j'ai un monsieur qui m'a dit « Que voulez-vous que je sois, puisque je suis hors de toutes les procédures ?» Être hors de toutes les procédures, c'est d'être condamné à l'absence de vie sociale et à l'absence de vie tout court, d'une certaine manière. Donc, je crois qu'il faut vraiment lier les deux. Et si il y a un terrain d'explosion, il n'est pas simplement sur le manque, sur le fait qu'il peut y avoir un sentiment d'être maltraité et qui est perçu comme une violence, mais aussi parce qu'il y a un problème tout simplement de compréhension et d'acceptation. Moi, j'ai appris aussi ce qui peut être dit, cette capacité de création qui existe par une forme de culture qu'on dit urbaine, hein, les danses urbaines, la tradition du rap, le hip-hop et tout ça. Bon, il faut lire ces textes, ils sont extrêmement explicites de ce qui est de l'ordre de la rencontre par la parole. Et moi je pense qu'à force d'avoir voulu répondre ou par le social ou par l'ordre public, on est passé un peu à côté, je dis un peu, mais quand même suffisamment, pour que l'on prenne trop de temps à résoudre les questions qui sont liées aux banlieues. Alors, banlieue, c'est la ville au banc. Hein, c'est la ville dans ses bordures, dans ses frontières. Bon, il y a une histoire pour ça. Cette histoire, elle est aussi importante à mettre en exergue. Les banlieues ne sont dans la presse, par exemple, que par le fait divers, non pas par leur histoire, non pas par le fait qu'elles ont contribué aussi à construire une société. L'accueil des rapatriés d'Algérie, l'accueil des immigrés qu'on est allé chercher, parce qu'on en avait besoin pour reconstruire la France. Bon, l'accueil des populations qui sont venues successivement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Il y a un avenir pour les banlieues. Personne ne parle de l'avenir des banlieues. Pourtant, il y en a un, c'est d'en faire de la ville.
Alain Hutchinson voulait aussi réagir. Alors, je ne sais pas si c'était pour faire une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit.
Non, pas nécessairement par rapport à ce qui vient d'être dit. Mais enfin, quand j'entends ce que vient de dire Catherine, moi, je crois que l'objectif à long terme, c'est d'en terminer avec les banlieues. C'est de démolir ces banlieues, enfin de ne plus avoir de banlieues.
C'est ce qu'on a dit en France au début des années 80. On a dit qu'on avait une quinzaine d'années.
Je crois qu'il faut joindre le geste à la parole. Je crois que Par exemple, j'étais ministre du Logement. J'ai cette chance parce que je trouve que c'est un observatoire extraordinaire dans lequel on peut développer des projets merveilleux. Mais donc, il y a une chose évidente dont tous ceux qui ont assumé cette responsabilité, je me souviens à l'époque c'était Marie-Noëlle Lindemann qui l'était ici, nous en avions discuté, c'est évident que on ne peut pas demander à un gosse qui naît dans une cité à Tours, à Beurre, où des milliers de logements sociaux sont concentrés, où des milliers de situations sociales aussi pas plus dramatiques les unes que les autres sont concentrées. Un gosse qui, depuis son plus jeune âge jusqu'à son adolescence, ne voit autour de lui que des allocataires sociaux, des gens qui sont en marge du système, qui sont des exclus du système. On ne peut pas demander que ce gosse-là devienne, ou ça tient à l'heure vraiment de la performance, et heureusement ça arrive, mais c'est très marginal, mais on ne peut pas lui demander de devenir quelqu'un d'extrêmement bien intégré, de quelqu'un qui va mener une vie comme ce à quoi culturellement on s'attend dans une perspective un peu bourgeoise d'ailleurs du fonctionnement de la vie de la société. Donc je crois que l'aspect urbanistique et en ce compris le logement est un aspect dont il faut parler aussi au-delà de la culture, de l'éducation, etc. Réorganiser la ville pour faire en sorte de recréer ce qui manque le plus aujourd'hui dans nos villes, c'est de la mixité sociale dans nos différents quartiers. On a les quartiers bourgeois, naturellement. On parle des banlieues que quand il y a des faits divers. On ne parle jamais des quartiers bourgeois parce que là il ne se passe rien. Donc il n'y a pas grand chose à dire, sauf si jamais ils étaient attaqués par hasard par des méchants garçons un peu basanés. Mais autrement, on n'en parle pas. Mais je crois justement que cette absence de mixité, le fait que nos villes sont en train de se compartimenter très fort, un peu à l'américaine, et enfin je ne sais pas, je ne vis pas dans les villes françaises, mais dans les villes belges et dans ma ville à Bruxelles, ça se passe de cette manière-là. La ville se compartimente et ça c'est un grand danger si on veut sortir un jour précisément de de ce qui caractérise aujourd'hui négativement ce que vous appelez les banlieues.
Oui, mais je pense que le fait de zoner les villes souligne ce compartimentage. Parce que
il n'y a pas question de zoner les villes. Il n'y a pas question de zoner les villes.
Ce que je veux dire, c'est qu'on a, avec notre système de zonage, on a séparé l'habitat de l'emploi. Oui. Et on a ensuite séparé les quartiers de banlieue du reste de la ville par des procédures qui étaient des procédures de ZUP, de ZEP, enfin, toutes ces caractéristiques qui font qu'on a une politique résumée sur un territoire et où, sur lequel, il y a un point qu'on n'a pas traité, c'est celui du foncier, et qui est, je crois, un des problèmes essentiels du point de vue urbain, en tout cas, par rapport à la responsabilité du logement social.
D'ailleurs, c'est bien pour cela que certains acteurs disaient que finalement, la politique de la ville, c'est une politique à part, alors que ce que l'on revendique en réalité dans
c'est
les quartiers,
c'est une politique de mission.
De droit commun, c'est-à-dire que c'est tous les ministères qui doivent à un moment donné prendre en charge les questions. Vincent Pellon,
vous voulez aussi réagir. Sur ce sujet, et c'est pour ça que la question des politiques publiques est déterminante, c'est que moi, je suis d'accord sur la question des logements et de la perspective, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, dans un pays comme la France, l'argent va aux communes qui sont riches et l'argent ne va pas aux communes qui sont pauvres pour des systèmes de prélèvements qui sont les nôtres, taxes professionnelles. Alors on a essayé de faire des efforts, c'est-à-dire d'essayer d'équilibrer, on le fait de façon totalement insuffisante. Tant que les responsables politiques seront dans des discours du pansement, de la douleur, de la reconnaissance du discours de l'autre uniquement, au lieu d'être sur des discours de justice sociale, qui sont quand même notre tradition, en se donnant les vrais moyens de ces situations, eh bien, on continuera de créer ce qui s'est quand même passé dans les 20 dernières années. Et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas mettre les politiques les unes à côté des autres. Il y en a quand même qui ont évité les catastrophes, mais le résultat n'est quand même pas brillant. Quand on voit la Seine-Saint-Denis, ou quand on voit, c'est la concentration de toutes les difficultés françaises, sont vraiment, on parle d'égalité des chances, c'est bien le minimum. Non, l'égalité des chances n'est pas réalisée dans ce pays. Et là, il faudra traiter quelques sujets majeurs, et à commencer par les questions d'argent et de redistribution. Parce que si vous pensez qu'on peut avoir, et on a vu la croisade de Nicolas Sarkozy, tout l'argent à Neuilly, toute la taxe professionnelle, et puis aucun logement social, et puis mettre tous les gens dans des cités dortoirs, dans un autre, ben alors on va vers la société dont on ne veut pas. Or pour ça, il faut des moyens qui ne sont pas seulement... Et je ne voudrais pas que ce soit compris comme un désaccord entre nous, la reconnaissance culturelle. Je pense qu'elle est importante et la dignité des personnes est quelque chose d'essentiel. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on pose les problèmes qui sont derrière, et ce problème derrière, par exemple, c'est le problème du financement. Est-ce qu'il y aura un jour de l'argent pour les communes du 93, autant qu'il y en a pour les communes du 92? Posons la question. C'est une question fondamentale.
C'est une question qu'il faudrait même poser aujourd'hui à l'Europe, hein, puisque l'Europe est devenue pratiquement cette tierce personne qui est venue sortir ce côté franco-français qui est le nôtre depuis une vingtaine d'années. Jean Leftel.
Écoutez, moi je reviens de Belfast où on a fait un colloque sur conflit et culture. Et quand vous voyez Belfast une ville complètement clivée entre catholiques, protestants, à l'heure actuelle encore, même s'il n'y a plus d'explosions, etc., plus de guerre civile. Mais vous vous dites quand même, au fond, la culture, ça sert à quoi? Ben, ça sert à maintenir ce minimum de vie sociale qui fait qu'il n'y a pas de conflit et pas de guerre civile, voyez? Et je crois que ça, c'est fondamental, et que si on ne prend pas la culture vraiment comme une chose extrêmement importante, qui n'est pas simplement un peu de décoration ou un peu de parole des habitants, mais qu'on dise réellement, c'est un enjeu majeur, parce que d'un côté, on va voir le conflit, les conflits de discrimination, et aucun pays européen n'y échappe. Ni pas plus le modèle anglo-saxon que le modèle républicain français. On va vers la guerre des civilisations, ou bien on dit ben, c'est important qu'on puisse vivre ensemble, et la question de vivre ensemble, ça, le dialogue interculturel que prône la Commission européenne pour 2008, c'est essentiel, parce que si on n'arrive pas dans ces villes à vivre en commun, et ça, c'est quand même fondamentalement un problème de culture.
Vous avez beaucoup parlé de culture, Jean Hurtel. On va demander à une ancienne ministre de la culture française de conclure. Justement, vous aviez évoqué aussi, Catherine Trottmann, le fait que toute cette culture urbaine aujourd'hui est plus ou moins vue avec condescendance. Il y a la belle culture avec un C majuscule, et puis il y a les rappeurs, les slameurs, les petits jeunes de banlieue. Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose à faire au niveau culturel, à savoir peut-être la promotion de ce que pourrait finalement régénérer la culture avec un grand C, qu'on ne parle pas de la culture urbaine, mais de la culture tout court en France?
On a beaucoup parlé à propos de ces cultures urbaines, de cultures émergentes. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles existent et qu'elles se taillent aujourd'hui une place, je crois, dans notre pays. À la fois grâce à l'influence d'autres grands pays, je pense au rayonnement des formes d'expression qui ont cours aux États-Unis, mais je crois aussi qu'il y a une, comme on dit, une French touch, c'est-à-dire une manière de transformer cette vision des banlieues dans une forme d'attachement. J'ai noté que dans beaucoup de chansons sur Marseille, sur Toulouse, un certain nombre de groupes se sont fait connaître par cette forme de patriotisme de la cité. Et moi, ça m'a toujours, au fond, encouragée. Quand il faut aller discuter des prix des loyers, de l'accès à des logements trop petits pour les familles, à l'aménagement du square et de l'espace pour les petits qui va être dévasté parfois par des adolescents, c'est ça aussi la vie quotidienne dans les banlieues. C'est d'avoir le sentiment qu'il faut en permanence se remettre à l'ouvrage. Mais en même temps, ce que disent ces groupes, ce que dit cette culture, c'est aussi un formidable champ d'espoir. Et puis, il y a aussi tous les joueurs de foot, après tout, ou les sportifs, qui montrent que tous ceux qui vivent dans ces quartiers aspirent aussi à la réussite et au succès personnel et collectif, et de ce point de vue, représentent une énergie considérable. Et donc, moi, j'ai tendance à dire que pour lutter contre ces discriminations, il faut aussi reconnaître ce qu'apporte cette jeunesse à ce pays, de l'énergie, une volonté de prouver et de beaucoup d'espoir.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Bien évidemment, tous les sujets n'ont pas été épuisés, loin s'en faut, mais on aura l'occasion de revenir puisqu'on est accueillis depuis deux jours ici d'une manière très, très agréable. Donc on reviendra bien évidemment pour participer avec vous et vos collègues sur ces questions. Merci beaucoup.